Alors j'ai trois questions pour nous à l'introduction du message de ce matin. Est-ce que vous acceptez de ne pas tout comprendre? C'est difficile d'accepter des fois qu'on ne sait pas tout. Virginia Anderson, la célèbre soignante, a déterminé 14 besoins fondamentaux pour les hommes, pour les femmes. Et un de ces besoins, c'est le besoin d'apprendre. Et il nous a créé ainsi, notre Dieu, pour que nous ayons besoin d'apprendre. Et alors, c'est un peu triste dans ce sens-là, une personne qui croit tout savoir. Hein. Est-ce que vous avez des ennemis? Moi, j'en ai. J'en ai des ennemis. Réfléchissez un moment. Est-ce que vous avez des ennemis? Des personnes, hein, j'entends. Des personnes. En chair et en os. Et comment va votre foi ce matin? On se salue et on se dit « Comment vas-tu ?» Et on pense bien sûr à la santé physique, mais comment va notre foi spirituelle ce matin? Alors, puisse le passage de ce matin de la parole de Dieu nous faire du bien, nous booster, que notre cœur puisse dire encore une fois, s'émerveiller, dire « Waouh !» On a besoin de ne pas devenir des chrétiens blasés, hein, tout simplement, ce serait tellement triste. Alors on va prendre un texte de la suite de l'épître de Paul aux Romains, chapitre 11. C'est les versets 25 à 32 qui nous concernent, mais je vais les resituer dans le contexte du texte qu'on avait dit avant, par rapport aux Israélites. Donc on est toujours dans ce sujet qui tient cher à Paul, et il a consacré trois chapitres de l'Épître aux Romains, qui en contient 16. Je demande donc, serait-ce pour tomber, je commence au verset 11, Romains 11, 11, serait-ce pour tomber que les Israélites ont trébuché? Certainement pas. Mais grâce à leur faux pas, les non-juifs ont eu accès au salut, afin de provoquer leur jalousie. Or, si leur faux pas a fait la richesse du monde et leur déchéance la richesse des non-juifs, cela sera d'autant plus le cas avec leur complet rétablissement. Je vous le dis à vous qui êtes d'origine non-juive, en tant qu'apôtre des non-juifs, je me montre fier de mon ministère afin que, si possible, de provoquer la jalousie de mon peuple et d'en sauver quelques-uns. En effet, si leur mise à l'écart a entraîné la réconciliation du monde, que produira leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Or, si la première part du sein du pain est sainte, tout le pain l'est aussi. Si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été coupées, et si toi, qui étais d'un olivier sauvage, tu as été greffé parmi les branches restantes, et si tu es devenu participant de la racine et de la sève de l'olivier, ne te vante pas au dépens de ses branches. Si tu te vantes, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras alors, des branches ont été coupées afin que moi, je sois greffé. C'est vrai, elles ont été retranchées à cause de leur incrédulité. Et toi, c'est par la foi que tu subsistes. Ne fais pas preuve d'orgueil, mais aie de la crainte. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté envers toi. Si tu demeures dans sa bonté autrement, toi aussi, tu seras retranché. Quant aux Israélites, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront greffés, car Dieu est puissant pour les greffer de nouveau. Si toi qui as été coupé de l'olivier sauvage auquel tu appartenais par nature, et greffé contrairement à ta nature sur l'olivier cultivé, à plus forte raison, eux seront-ils greffés conformément à leur nature sur leur propre olivier. Et on arrive au verset 25. En effet, je ne veux pas, frères et sœurs, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion, et il écartera de Jacob les impiétés, et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. En ce qui concerne l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous. En ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous aviez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce, miséricorde, à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce aux miséricordes à tous. Et on prendra la suite du texte pour la prochaine fois. Un jour, tout Israël sera sauvé. C'est le scoop qu'annonce Paul à ses lecteurs. Verset 25, première partie. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne preniez pas pour des sages. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère. Paul nous met en garde de ne pas être sage à nos propres yeux, comme le fait le livre des Proverbes, hein, Proverbes 3, 7. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Que ce soit de façon individuelle, personnellement, ou que ce soit de façon collective, une église entière qui se croit plus sage que les autres. On ne sait pas tout. Et le mot mystère, dans le Nouveau Testament, ça désigne une révélation de Dieu qui était jusque-là cachée et qui est dévoilée à un moment donné de l'histoire de l'humanité. On ne sait pas tout. Et Dieu n'est pas enfermé dans nos schémas, dans nos principes, dans nos livres de théologie. Sur ce qui est l'avenir en général, en particulier, et sur ce qui est la fin, en particulier. C'est Dieu qui est aux commandes. Et de ce côté-là, c'est très rassurant. C'est Dieu qui est aux commandes. Un jour, tout Israël sera sauvé. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'ensemble des non-juifs soit entré. Et ainsi, tout Israël sera sauvé un jour. L'endurcissement des Israélites, on en avait parlé dans les messages précédents, aura une fin jusqu'à ce que l'ensemble ou de la totalité ou la plénitude des non-juifs soit entré. Suivant les traductions, il y a un mot ou l'autre qui est utilisé. Le mot ensemble, totalité, plénitude, c'est un mot grec qui est pléroma. Et ailleurs, dans le Nouveau Testament, vous le trouverez utilisé, si vous faites des recherches, pour dire qu'une prophétie est accomplie. Elle est pléroma. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez afin que votre joie soit parfaite ». C'est le même mot. Et Paul exhorte les Ephésiens en leur disant « Soyez remplis de l'Esprit ». C'est le même mot. Donc ce jour dont il est question ici n'est pas le jour où 68 millions de Français seront au Seigneur. Mais selon l'élection de Dieu, il y aura des disciples de toutes les nations. Allez, faites de toutes les nations des disciples, nous a dit le Seigneur. Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, l'Église, à travers les temps, s'est attachée à cela, à faire connaître au monde entier la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Il est question de que l'ensemble des non-juifs seront rentrés. Alors, bien sûr, seront rentrés, on pense à la conversion. Et moi, je me rappelle aussi de cette parabole de Jésus, vous savez, où le roi donne un grand festin pour les noces de son fils. Et puis voilà les invités, ils ont tous une excuse. Et ils ne viennent pas. Et le roi dit, allez, il envoie ses serviteurs parcourir toutes les rues des villes et trouver tous les malades, tous les estropiés, ramenez-les ici, il n'y avait pas assez de monde. Toutes les personnes, forcez-les à rentrer, ma maison doit être pleine. Et c'est peut-être de cela que Jésus faisait allusion. Un jour, le travail d'évangélisation sera terminé et il y aura des élus de tout peuple, de toute tribu, de toute langue, comme il est question dans le livre de l'Apocalypse. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Et Jésus a ajouté, alors viendra la fin. Matthieu 24, 14. Un jour donc, tout Israël, le tout qui est là, c'est pas forcément 100%, c'est pas un chiffre du tout mathématique. Mais par exemple, si vous parcourez la Bible, vous verrez hein, que tout Jérusalem a été troublé à l'arrivée des mages. On n'était pas loin de Noël, on a parlé de ce texte. Et Hérode a envoyé ses soldats tuer tous les enfants de la région de Bethléem qui étaient de 2 ans et en dessous. Alors, ça signifie que ça ne veut pas dire qu'il y ait un enfant ou l'autre qui n'ait pas pu s'échapper. Ça ne veut pas dire qu'il y avait peut-être des juifs à Jérusalem, des habitants de Jérusalem qui n'étaient pas au courant de la venue des mages. Mais en tout cas, là, on a l'idée d'une immense majorité, une très vaste majorité, tout Israël. Il sera sauvé. Les versets 26 et 27. Tout Israël sera sauvé, comme le dit l'Écriture, le libérateur viendra de Sion et il écartera de Jacob les impiétés et telle sera mon alliance avec eux lorsque j'enlèverai leurs péchés. C'est intéressant de lire ce passage de Ésaïe 59 qui est très instructif. Je vais le lire rapidement. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime, et vos lèvres préfèrent le mensonge, votre langue fait entendre l'iniquité. Nul ne plaide avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines, disent des faussetés, ils conçoivent le mal, enfantent le crime. Ils couvent des œufs de basilic, ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leurs œufs meurt, et si l'on brise un, il en sort une vipère. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement, et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont comme des œuvres d'iniquité, leurs actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal, ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées d'iniquité, le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix, il n'y a pas de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés, quiconque qui marche ne connaît pas la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Le salut ne nous atteint pas, nous attendons la lumière et voici les ténèbres, la clarté, et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long des murs, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont pas Dieu, nous chancelons à midi comme la nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts, Nous grondons tous comme des ours, nous gémissons comme des colombes, nous attendons la délivrance, elle n'est pas là. Le salut, il est loin de nous, car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables d'infidélité avant l'Éternel, nous avons abandonné notre Dieu, nous avons été proférés de la violence, de la révolte, conçus et médités dans le cœur des paroles de mensonges, et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture, il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne que ces personnes n'intercèdent. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Il se revêt de la justice comme une cuirasse. Il met sur la tête le casque du salut. Il prend la vengeance pour vêtement. Il se couvre de la jalousie comme de manteau. Il rendra à chacun selon ses œuvres, la fureur à ses adversaires, la pareille à ses ennemis. Il rendra la pareille aux îles. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Et verset 20, un Rédempteur viendra pour Sion, pour ceux de Jacob qui se convertissent de leurs péchés. Dit l'Éternel, voici mon alliance avec eux, mon esprit qui repose sur toi et mes paroles que j'ai mises dans ta bouche ne se retireront point de ta bouche, ni de la bouche de tes enfants, ni de la bouche des enfants de tes enfants, dit l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et donc, il s'agit bien d'être sauvé du péché. Sauvé du péché. Et l'initiative, c'est Dieu qui est à l'initiative de cela. Le libérateur viendra. Dieu va sauver par grâce. Comme tous leurs frères et sœurs, les juifs qui sont endurcis pour être greffés sur l'olivier franc, qui est l'Église. Et sont concernés donc tous ceux qui se convertiront de leurs péchés. La repentance et la foi dans le sacrifice de Jésus-Christ est bien sûr le passage obligé pour arriver au salut. Tout Israël sera sauvé un jour. L'apôtre poursuit. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous, mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leurs ancêtres. En effet, les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que vous avez maintenant obtenu grâce à cause de leur désobéissance, de même, ils ont maintenant désobéi afin d'obtenir eux aussi grâce à cause de la grâce qui vous a été faite. Car Dieu a enfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire grâce à tous. Israël aussi obtiendra miséricorde. C'est le petit aussi que je voudrais développer. Il y a le paradoxe des ennemis qui sont aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternel. Et le peuple juif a fait une offense immense à Dieu en rejetant le Messie promis qui n'était autre que son propre fils. Non seulement il a à ce moment-là rejeté le Messie, mais le peuple s'est opposé farouchement à l'évangélisation des non-juifs. En 1 Thessaloniciens 2, 15, 16, en parlant de cette génération-là de juifs, Paul écrit « Ce sont ces juifs qui ont fait mourir le Seigneur Jésus et les prophètes, qui nous ont persécutés, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont ennemis de tous les hommes, nous empêchant de parler aux païens pour qu'ils soient sauvés, en sorte qu'ils ne cessent de mettre le comble à leurs péchés. Mais la colère a fini par les atteindre. » Jésus les avait pourtant prévenus, avec le signe de Jonas. Vous savez, en Matthieu 12, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent eux, à la prédication de Jonas. Et voici, il y a plus que Jonas. Et Jonas, lui, ne voulait pas que les Ninivites soient les bénéficiaires de la miséricorde de Dieu. Contre le désir de Dieu, il s'est opposé. Il ne voulait pas que Dieu fasse miséricorde aux Ninivites. Mais Dieu aime les Israélites. Non pas parce qu'ils sont aimables, mais parce à cause de leurs ancêtres, nous dit le texte. Et c'est l'amour de Dieu qui va avoir le dernier mot. Ce n'est pas l'endurcissement de tout un peuple, mais c'est l'amour de Dieu. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Si nous sommes infidèles, Jésus-Christ demeure fidèle car il ne peut se régner lui-même. Et l'amour de Dieu pour son peuple n'est pas conditionné par le fait que nous soyons aimables ou pas. Et c'est tellement rassurant, n'est-ce pas, que de savoir que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Pas même notre folie, pas même notre endurcissement sur tant de sujets. Il y a des choses dans lesquelles nous sommes, pour lesquelles nous sommes endurcis. Nous ne voulons pas comprendre ce que Dieu veut nous dire. Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. L'amour a le dernier mot. Juifs et non-juifs se retrouvent au même niveau. Vous avez vu? Ils ont, les peuples juifs ont besoin de la même miséricorde que les non-juifs. Ils ont besoin de la même grâce qui a été faite aux Ninivites, ce peuple qui semait la terreur autour d'eux et les asservissait uniquement par la crainte de leur cruauté sanguinaire. On a parler lors de la fête de Noël du peuple des Saouis, qui étaient des cannibales et qui, dans leur culture, ce qui était bien, c'était d'être un traître. Dieu leur a fait miséricorde et le peuple juif a besoin de cette même miséricorde-là. C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Éphésiens 2:8, on connaît bien ce passage et en suivant, Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient proches. Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès de Dieu dans un même esprit. Alors, quelles applications ce texte qui semble de la théologie. Qu'est-ce que ça change pour moi? Je crois qu'il y a une application qui, Paul nous demande de ne pas nous prendre pour des sages, à nos propres yeux. Les conditions du retour du Seigneur ne sont pas fondamentales. J'ai compté, il y a 4 versets où Paul parle de ça dans cet épître aux Romains, dans ces 11 chapitres qu'on a vus. Il y a 4 versets où il mentionne cela. C'est dans particulièrement dans ce dernier chapitre 11, verset 12. Si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? 15, car leur mise à l'écart a été la réconciliation du monde. Que sera leur réintégration sinon le passage de la mort à la vie? Et les deux versets qu'on a lus aujourd'hui. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Alors, il y a des sujets que les chrétiens discutent, les questions du millénium en ce moment, c'est la grande discussion. Mais c'est pas là-dessus que Paul du tout focalise son enseignement. Hein. Et ça ne doit pas être, jamais être un sujet de discorde ou un sujet de conflit ou de division entre chrétiens. Paul n'en a même pas parlé. Et si vous n'avez jamais entendu parler de ça, vous ne perdez pas grand-chose, rassurez-vous. Éloignons de nous la pensée que nous avons tout compris. Restons curieux, restons ouverts d'esprit, restons des personnes qui sont enseignables, que l'on peut enseigner et ne pas nous barricader dans nos certitudes. C'est Dieu qui tient l'avenir dans ses mains, pas nous. C'est une bonne chose que de penser au retour du Seigneur, d'être enthousiasmé quand on voit les signes de son retour, c'est formidable. Mais des générations avant nous se sont aussi enthousiasmées et les premiers chrétiens de la première génération n'étaient pas en reste de se dire « Jésus va bientôt revenir, voyez tout ce qui se passe ». Dieu veut que cela soit ainsi. Il veut que nous soyons sur le qui-vive. Il veut que nous attendions son retour avec impatience. Il n'y a qu'un seul peuple de Dieu qui désormais rassemble juifs et non-juifs. Et pourquoi je dis ça ? Parce qu'on a quand même l'image de l'olivier qui est assez claire. Un seul arbre, d'où des branches ont été retirées, d'autres ont été greffées, et à la fin, celles qui ont été retirées sont greffées de nouveau. Un seul arbre. Je ne voudrais pas que nous soyons une église qui est une église craintive quand elle voit les signes du retour du Seigneur, de se cacher et de, en attendant l'enlèvement. On a peur de la persécution. Je crois qu'il est sage de s'armer de la pensée que nous allons souffrir. Avoir cette idée-là claire en tête, si Dieu le veut, je souffrirai. Ainsi être tranquille avec cela. Quand les problèmes et les difficultés arriveront, nous pourrons ainsi continuer joyeusement de proclamer l'évangile de Jésus jusqu'à la fin, jusqu'à son retour. La crise du Covid nous a appris comment du jour au lendemain une opinion publique peut se retourner. Hein. On a vu ça avec l'église porte ouverte. Hein. Notre liberté, nous avons liberté de culte, liberté d'évangéliser, ben c'est quand même repose sur des lois du passé. Ce sont pas là des lois contemporaines. Et les lois, ça se change. Ça se change vite. Et aussi, cette pensée d'être prêt à souffrir, c'est quelque chose qui honorera les 15% de chrétiens dans le monde qui, eux, sont persécutés. Il est juste que nous soyons nous aussi prêts à souffrir et à avoir, pour notre foi, et avoir cette idée-là en tête. Un seul peuple de Dieu qui rassemble désormais juifs et non-juifs. Une autre application, j'y reviens, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Ils sont ennemis à cause de vous et ils sont aimés à cause des pères. L'apôtre, et là je vois un enseignement pour nous. Jésus-Christ a dit, vous savez, sur le sermon sur la montagne, Matthieu 6, aimez vos ennemis. On a l'image de l'amour de Paul pour ses compatriotes, pour son peuple, qui pourtant le tabassait. Il les aimait ardemment, et pourtant, il se faisait tabasser par eux. Dans mon travail, j'ai un collègue qui me désespère et que je suis désespéré par la hiérarchie qui le laisse faire. Il a une grosse tête comme ça et il fait des choses sans considération pour ses collègues, avec dépouillé de toute espèce de d'humanité ou de, et il fait des bêtises pour moi. Je le vois comme ça. Et franchement, c'est mon ennemi. Et j'ai d'autres ennemis. Je ne veux pas parler de tous. Mais Dieu peut lui faire grâce comme il m'a fait grâce à moi. Je ne connais pas son arrière-plan. Je ne connais pas ce qu'il vise, par quoi il est passé. Je ne connais rien de sa vie intérieure. Mais Dieu peut lui faire grâce. Et demain, peut-être, il sera là assis sur les bancs de l'église. Aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Avez-vous votre poutine? Dieu peut changer le cœur de Poutine. Il peut en faire un de ses enfants. Alors, je vous proposerai pour terminer de louer Dieu pour sa miséricorde, pour son merveilleux plan de salut. Est-ce que votre foi est fortifiée ce matin? Paul dit que la conversion du peuple juif sera pour l'humanité entière comme le passage de la mort à la vie. Et nous avons un rôle à jouer là-dedans, dans l'évangélisation. Nous avons un rôle à jouer, c'est incroyable, dans l'évangélisation. Un encouragement à renouveler notre engagement pour que la parole de Dieu soit diffusée, l'évangile soit diffusé, et il y a tellement de façons de le faire, aux proches, comme au loin, tout est important, tout compte, et il y a une multitude de façons d'y contribuer. C'est quelque chose qu'on doit toujours avoir à cœur, que l'évangélisation, la diffusion de la bonne nouvelle, c'est tellement important. Je voudrais terminer avec un chant qui s'appelle « Miséricorde insondable ». Dieu peut-il tout pardonner? Je ne sais pas s'il y en a qui le connaissent. C'est un vieux chant de l'Armée du Salut. Je ne sais pas si vous le connaissez. Il y en a qui le connaissent. Alors, il est tellement facile à apprendre, vous allez voir. C'était des chants de l'époque, c'était pas compliqué, hein, à chanter. À... Donc je vais chanter une fois un couplet, un refrain. Et puis après, on reprendra avec les musiciens s'ils arrivent à s'approcher, autrement ça ira. Miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner? Absoudre un si grand coupable et mes péchés oubliés. Jésus, je viens à toi tel que je suis. Je viens à toi, Jésus, je viens à toi tel que je suis. Prends-moi. Alors on peut penser à nous, à notre expérience, à notre cheminement spirituel. On peut penser à tous les frères qui nous ont précédés. On peut penser à tous les frères qui nous suivront, les sœurs. Tous ceux qui ont été ajoutés de la même manière à l'Olivier de la Grâce. Ça va ou? Je viens à toi, tel que je suis.
Je veux être libéré de tout péché qui m'enseigne, être à jamais délivré. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, je viens à toi. Jésus, je viens à toi, tel que je suis, pour moi. Alléluia, plus de doute, mon fardeau est enlevé.
Fera.